Europe Matin.
Le 7-9, Sébastien Krebs.
Allez, c'est parti tout de suite, votre journal. Bonjour Hélène Zellani.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 7h sur Europe 1.
L'heure de question qui est une voiture de police qui n'aille plus dans un quartier. L'heure de question qui n'est plus de policiers qui n'aille plus dans un quartier. Tous les halls d'immeubles sont à visiter et les policiers sont partout chez eux en République.
Gérald Darmanin refuse d'être le ministre qui met en place des zones de non-droit et de non-contrôle. Réponse à la défenseur des droits Claire Hédon qui elle veut des zones sans contrôle d'identité. Reportage à Poissy avec le ministre de l'Intérieur dès le début de ce journal. Les pompiers de Marseille à la rescousse pour traquer les variants du Covid en Moselle. Ils ont commencé leur prélèvement hier. Y aura-t-il une génération sans tabac? Sans tabac en 2030, comme le souhaite Emmanuel Macron, c'est le dossier de ce journal. Nous verrons si c'est vraiment possible et comment. Et puis, effacer le mauvais souvenir de la remontada de 2017. Le PSG joue les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions sur le terrain du Barça ce soir. Et c'est à suivre en direct sur Europe 1.
Après le journal, une note d'espoir. Et si la crise que nous vivons laissait place à une période de prospérité, le retour des années folles, scénario optimiste des économistes, c'est l'édito éco de Daniel Fortin. Le regard international de Vincent Hervouet sur la situation qui se dégrade en Birmanie. Et puis on retrouvera Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est la grande polémique du moment, la proposition de la défenseure des droits Claire Hédon, expérimenter des zones sans contrôle d'identité parce que, dit-elle, dans certains quartiers, ils sont insupportables pour les jeunes. Levée de boucliers, des syndicats de police et de plusieurs élus de droite, mais aussi de la majorité.
Alors qu'en pense Gérald Darmanin? Le ministre de l'Intérieur était justement en visite à Poissy hier soir, où des policiers ont été la cible de tirs de mortier d'artifice le week-end dernier, avec ce cri que vous avez peut-être entendu, tuez-les. Louis Dragnel était le seul journaliste autorisé à suivre le ministre de l'Intérieur dans le commissariat. Écoutez son reportage.
C'est un déplacement qui n'était pas prévu à l'agenda de Gérald Darmanin. Face à l'émotion suscitée par les appels au meurtre des policiers de Poissy, le ministre de l'Intérieur a organisé une visite surprise au commissariat. L'échange a très rapidement tourné autour des déclarations de Claire Hédon, le défenseur des droits.
L'heure de question qui est une voiture de police qui n'allait plus dans un quartier. Tous les halls d'immeubles sont à visiter et les policiers sont partout chez eux en République.
En présence des policiers du commissariat, le maire de Poissy, Carl Olive, a tapé du poing sur la table. Le défenseur des droits a organisé le concours Lépine de l'imbécilité hors sol de pouvoir imaginer d'expérimenter des zones de non-contrôle d'identité dans nos quartiers. Monsieur le ministre, créez plutôt un défenseur des devoirs. Réponse immédiate de Gérald Darmanin, je ne serai pas le ministre qui met en place des zones de non-droit et de non-contrôle. L'immense majorité des Français soutient la police. Après avoir salué et écouté les policiers attaqués, Gérald Darmanin a visité le commissariat de fond en comble, ce qui lui a permis de constater que le chauffage ne fonctionne plus. Et sans attendre, il a demandé au directeur général de la police, présent sur place, de régler le problème au plus vite.
Louis de Ragnel à Poissy dans les Yvelines pour Europe 1.
Et la défenseur des droits Claire Hédon viendra défendre son idée face à Sonia Mabrouk tout à l'heure à 8h15.
Tous les établissements de santé appelés à se remobiliser d'ici jeudi. Ils doivent au minimum activer leur plan de mobilisation interne en prévision d'une nouvelle vague épidémique. Consigne du ministère de la Santé alors que le nombre de malades hospitalisés et en réanimation continue à augmenter.
Et la progression des variants est surveillée comme l'huile sur le feu, notamment en Moselle, où 30 000 doses de vaccins supplémentaires seront disponibles.
Les variants brésiliens et sud-africains continuent de se propager dans ce département qui vient d'appeler à l'aide les marins-pompiers de Marseille, et cela pour évaluer la circulation du virus dans les eaux usées. L'une de leurs équipes, experte en la matière, vient d'arriver à Metz. Arthur Elmbaché.
Un récipient au bout d'une chaînette, au fond de l'égout, des eaux usées. À la manœuvre, tous les deux en combinaison de protection, un sapeur-pompier mosellan et un marin-pompier marseillais.
Bien sûr, on est très fiers de toute façon de pouvoir venir en aide à tous ceux qui le demanderont.
Le marin-pompier Eric dirige les équipes venues de Marseille.
On a pris en charge ces prélèvements, on les a filtrés, envoyés sur le tarmac pour être pris en charge par un avion qui a été affrété uniquement pour cela. 2 heures plus tard, sur l'aéroport Marseille-Provence, récupérés par nos services et analysés dans la foulée dès qu'ils arrivent sur notre laboratoire.
À Marseille, des équipes sont capables de repérer tel ou tel variant dans l'eau des égouts de Metz ou Thionville, nous dit Olivier Delqueroux, sous-préfet de la Moselle.
Une trentaine de pompiers de la Moselle sont mobilisés sur ce dispositif et vont profiter des quelques heures qu'ils partagent avec les marins-pompiers de Marseille pour acquérir leurs données, leurs connaissances et pouvoir ensuite se débrouiller de manière plus autonome. L'objectif est bien celui-ci, d'avoir une cartographie la plus précise possible de l'ensemble du département. On pourra accélérer les tests, les outils de protection de la population.
On repère le virus dans les eaux usées une bonne semaine avant l'apparition des symptômes. Ça permet d'isoler plus vite les porteurs du virus et, dans l'idéal, ça permettra de contenir les variants sud-africains et brésiliens très présents ici en Moselle. Metz, Arthur Elmbaché, Europe 1.
Et puis l'Allemagne n'exclut pas de durcir les contrôles à sa frontière avec la Moselle pour éviter justement la propagation des variants. On va y revenir dans le journal de 8h.
En cette période de vacances scolaires, vous rêvez peut-être de plage, de cocotiers, de liberté. En clair, vous avez peut-être déjà les yeux tournés vers l'été prochain ?
Oui, l'évolution de la crise sanitaire est évidemment imprévisible, mais les compagnies aériennes misent beaucoup sur une reprise en juillet-août. Certaines tendances commencent d'ailleurs à se dessiner, Aurélien Fleureau.
Oui, puisque le premier semestre s'annonce encore très perturbé, les compagnies aériennes ont déjà leur plan d'action pour cet été. Cela va d'abord passer par des destinations refuges rassurantes. La France sera privilégiée, en particulier la Corse et l'Outre-mer. Où Air France a par exemple renforcé son offre estivale, 56 vols par semaine vers Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne et Saint-Denis de la Réunion. Transavia, de son côté, va lancer des lignes saisonnières depuis Brest, Nantes, Montpellier en direction de la Corse, deux destinations qui sont donc très recherchées par les internautes qui commencent à s'imaginer sur une plage cet été, confirme Julie Gallo, porte-parole du comparateur de voyage Liligo.
Finalement, des destinations sur lesquelles ils arrivent à se projeter. Par rapport à d'autres destinations l'année dernière, comme Montréal, New York ou Los Angeles, qui sont aujourd'hui complètement inaccessibles et donc qui permettent pas de se projeter pour l'été.
Pour l'instant, les Français sont encore très frileux, peu de réservations. Désormais, c'est la dernière minute qui est presque devenue la norme. Pour rassurer les clients, les principales compagnies aériennes prolongent leurs offres de modification ou remboursement des billets sans frais.
Aurélien Fleureau.
7h06 sur Europe 1, à suivre le duel Barça-PSG en Ligue des Champions et puis le déjeuner au bureau à nouveau autorisé. Vous verrez, c'était interdit jusque-là. Mais d'abord, on va réécouter ce que disait Emmanuel Macron il y a quelques jours lors de la présentation de son plan cancer.
Et je souhaite que la génération qui aura 20 ans en 2030 soit la première génération sans tabac de l'histoire récente.
Ceux qui auront 20 ans en 2030, peuvent-ils vraiment devenir la première génération sans tabac ? C'est le dossier européen qu'on ouvre avec vous, Johanna Chabas. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que c'est vraiment possible ?
Alors déjà, il faut savoir ce qu'on appelle une génération sans tabac. Ça veut dire une génération dans laquelle il n'y a que 5% de fumeurs. Or, aujourd'hui, 25% des jeunes de 17 ans fument. L'objectif est donc très ambitieux, mais pas impossible à atteindre selon les associations si l'on prend des mesures concrètes. Elles demandent d'abord la hausse du prix du paquet de cigarettes pour atteindre 15 euros en 2025. Une mesure efficace, ces 4 dernières années, le prix du paquet a augmenté progressivement de 2 euros et la consommation de tabac a chuté de 16%. Autre piste, selon le tabacologue Bertrand Dossenberg, il faut continuer à ringardiser la cigarette auprès des jeunes.
Les premières cigarettes n'ont pas d'intérêt, elles sont même désagréables. Les jeunes ont commencé à fumer dans 68, dans les années suivantes, parce que le chameau Camel leur disait que c'était drôle de fumer. Maintenant, chez les jeunes, la cigarette est quelque chose qui fait un peu vieux, c'est pas très à la mode de prendre ce produit, et si c'est plus à la mode, les jeunes vont pas commencer à fumer.
Johanna, on a entendu ce que veulent les associations. Y a des initiatives locales qui sont déjà en place ?
Oui, on a déjà vu des communes comme Strasbourg ou Paris interdire la cigarette dans leur parc ou La Ciotat et Saint-Malo sur leur plage. Mais plus étonnant, certaines entreprises encouragent leurs employés à arrêter de fumer. Dans le nord de la France, Laurent Michkin offre des billets d'avion à ses salariés au bout d'un an sans cigarette. Le reportage de Zoé Pallier.
24 ans à fumer plus d'un paquet par jour, Arnaud avait tout essayé pour arrêter, chewing-gum et patch à la nicotine, finalement moins efficace que la récompense promise par son patron.
Ça m'a fait un déclic tout de suite, hein. Je me suis dit il fallait que j'y arrive. Je l'avais annoncé à ma femme et elle voulait aussi ses billets d'avion pour aller à New York. Ça y est, je suis sevré et je vais avoir des collègues qui vont pas se gêner de me charrier si je reprends la cigarette alors que j'ai eu un voyage offert par le patron.
Fini donc les pauses cigarettes sous les fenêtres de son directeur, Laurent Michkin, soucieux des poumons de ses salariés et de la santé de son entreprise.
J'ai fait un calcul tout simple. J'ai calculé le temps d'une cigarette multiplié par le nombre de pauses cigarettes dans la journée. Et j'ai fait un constat où sur une année, une personne qui fume travaille 8 jours de moins qu'une personne qui ne fume pas.
Sur 14 fumeurs, 8 ont arrêté. Les autres ont droit à des séances d'hypnose sur leur temps de travail pour continuer à essayer de se désintoxiquer.
8 jours de travail perdu hein, pour les fumeurs, c'est pas rien.
Je retiens le départ à New York pour arrêter de fumer.
C'est vrai que c'est assez tentant. On sait aussi qu'évidemment, en dehors de l'hypnose, le voyage à New York, le levier idéal, c'est évidemment le prix du paquet. Et d'ailleurs, Johanna Chabas, certains pays comme l'Australie ont choisi cette stratégie et vont même très loin.
Oui, en Australie, le paquet est à 30 euros. Imaginez, c'est 3 fois plus qu'ici. Et à ce prix-là, seulement 3% des adolescents fument. Et c'est la même stratégie qui est choisie au Royaume-Uni, à Singapour ou encore en Californie. Et justement, face à ces hausses de prix et à la perspective d'une future génération sans tabac, les cigarettiers s'adaptent. Question de survie. Philip Morris, numéro 1 mondial, mise notamment sur les cigarettes électroniques. L'objectif est qu'en 2025, la moitié de son chiffre d'affaires ne dépende plus de la cigarette traditionnelle.
Merci Johanna Chabas. Et aujourd'hui, après les buralistes, ce sont les associations de lutte contre le tabagisme qui sont auditionnées à l'Assemblée pour débattre justement du prix des paquets de cigarettes. Kylian Lerest, le chauffard de Lorient, condamné à 5 ans de prison ferme. Cette nuit, en 2019, il avait heurté 2 enfants au volant de sa voiture avant de prendre la fuite. Un garçon de 9 ans n'avait pas survécu. Un autre de 7 ans reste handicapé. Le chauffard a été directement conduit en prison.
On en vient à la grande soirée foot qui se prépare sur Europe 1 avec ce duel au sommet. FC Barcelone, Paris Saint-Germain, 8e de finale aller de la Ligue des Champions.
Un duel qui en rappelle un autre cuisant souvenir du 8 mars 2017.
Attention, par-dessus ! Non !
Impossible ! C'est pas possible ! C'est pas possible !
Eh ben si, c'est possible. Le PSG battu 6 buts à 1 par un Barça qui avait perdu 4-0 à l'aller. Incroyable remontada qui hante encore les nuits des supporters et aussi des joueurs parisiens. Ce soir pour les retrouvailles, il va falloir ne pas trop y penser. À Barcelone, Julien Froment.
Ils sont encore 6. 6 joueurs parisiens à avoir vécu le traumatisme de la remontada. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts de la Seine. Même si cette défaite historique reste, même inconsciemment, dans les mémoires, le club fait tout pour passer à autre chose. L'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a vite évacué le sujet en conférence de presse.
Je suis plutôt calme. L'histoire, c'est l'histoire. On est dans une réalité différente, avec des joueurs différents. Ce qui s'est déroulé, c'est passé. On ne peut pas l'effacer. Tout ce qu'on peut contrôler, c'est de rendre le futur meilleur possible.
Contraste saisissant avec le FC Barcelone, où on fait tout pour raviver la flamme de la remontada. C'est comme une sorte de valeur refuge. L'attaquant français du Barça, Ousmane Dembélé.
C'est un match qui va rester dans les annales, je pense. Parce que mener 4-0, toutes les équipes d'Europe... C'est difficile à remonter. Et puis, ils l'ont fait en plus avec une grande équipe.
Ce soir, dans un contexte complètement différent, à défaut d'effacer la douleur des supporters parisiens, les joueurs peuvent l'atténuer en devenant la première équipe française de l'histoire à s'imposer au Camp Nou en Ligue des Champions. Barcelone, Julien Froment, Europe 1.
Le coup d'envoi à 21h de ce Barça-PSG que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur Europe 1, émission spéciale dès 20h. Vous comptez déjeuner où à midi, Hélène? Je peux pas vous inviter au resto malheureusement, mais ce sera au bureau de votre ordinateur. Alors ça tombe bien, on peut déjeuner désormais derrière son ordinateur. C'est officiellement autorisé depuis hier matin.
Et oui, jusqu'ici, manger une salade, croquer un sandwich à son poste de travail, eh bien c'était interdit, mais personne ne le savait. C'est ce qu'a constaté Hélène Terzian dans les couloirs d'une grande entreprise à Paris.
Vous êtes en train de terminer votre bouchée là?
Oui.
D'accord. Vous n'avez pas le droit de manger à votre poste, normalement.
Ne vous cachez pas derrière votre écran, Kevin. Terminez votre repas. Ce que vous faites n'est plus illégal.
Comment ça, on peut aujourd'hui manger à son poste? Je comprends pas.
C'était interdit jusque-là.
Ah bon? Je n'étais pas au courant.
Ça m'étonnerait quand même.
Je vous assure que si. C'était même inscrit dans le code du travail. C'est l'article R4228-19.
Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
Cette mesure est donc assouplie s'il est difficile d'appliquer le nouveau protocole sanitaire dans un restaurant d'entreprise. Et ça tombe bien pour Sarah.
Mais moi, tous les jours, je mange à mon poste, sans savoir que j'étais hors la loi. Donc je préfère manger toute seule à mon bureau, la fenêtre ouverte. C'est parce que c'est le temps du coronavirus que je fais ça.
Dans le bureau voisin, on ne se cache même pas derrière l'argument Covid.
C'est plutôt par choix personnel, parce que je suis pas fan de la cantine, mais... Que j'aime bien aller m'acheter à manger. Oh, ça dépend, je m'amène des petits plats.
Ça peut être des salades, tout ça, donc c'est tout vite fait. On
gagne du temps.
Alors, profitez-en, chère Sophie. Cet assouplissement est temporaire. Une fois la loi rétablie, vous risquerez une sanction disciplinaire et votre employeur une amende de 3750 euros.
Voilà, on en aura appris des choses avec Hélène.
On a
Hélène
aussi au petit-déj, parce que nous, on a tendance plutôt à petit-déjeuner.
Et c'est valable aussi pour le petit-déj. Pour terminer, vous reconnaîtrez peut-être cette chanson.
Quand les hommes vivront d'amour,
il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous nous serons morts, mon frère.
C'est la voix du Québécois Raymond Lévesque, auteur de ce grand classique de la chanson « Quand les hommes vivront d'amour » sorti en 1956. Il vient de mourir à 92 ans des suites du Covid. Cette chanson hymne pacifiste a été reprise par Céline Dion, Bourvil ou Renaud et traduite dans le monde entier.
À nous qui serons morts, mon frère.
Et nous terminons avec ces notes, le journal de 7h, signé Hélène Zellani. 7h15 sur Europe 1.
Europe Matin,
le 7-9.
Sébastien Krebs.
Et ce matin, c'est un ancien joueur du PSG qui est avec nous pour poser les enjeux de ce Barça Paris, l'ancien arrière-droit parisien Christophe Jallet. On va notamment parler de Neymar, de ses blessures à répétition. Ça fait trois fois qu'il manque un huitième de finale en Ligue des Champions. Le regard donc de Christophe Jallet dans le tête-à-tête tout à l'heure à 7h40. Mais tout de suite, et si le monde d'après nous réservait une nouvelle ère de prospérité après la crise? Le retour des années folles, l'édito écho de Daniel Fortin dans quelques secondes. Et le regard international de Vincent Hervouet. Bon réveil, bienvenue sur Europe 1.
Europe Matin,
le 7-9, Sébastien Krebs.
7h17 sur Europe 1.
L'éclairage écho avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Bonjour Daniel Fortin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
De la rédaction des Échos, votre édito Écho avec les chiffres de l'économie qui ne sont pas bons, ça n'est pas très surprenant. Un nouvel indicateur de la profondeur de la crise, les crédits à la consommation ont reculé de plus de 11%, c'est leur plus forte baisse depuis 12 ans. Et pourtant, certains économistes croient malgré tout à un scénario optimiste.
Oui, ils parlent même d'un retour prochain des années folles. Vous savez, cette période qui a suivi la Première Guerre mondiale. La France en était sortie avec une économie en miettes et une dette publique gigantesque. Et pourtant, la production avait bondi de 70% lors de la décennie qui avait suivi. Et bien là, nos économistes font le même pari. Les années 2020 pourraient être, contre toute attente, des années de grande prospérité.
Mais alors, sur quoi s'appuie-t-il pour faire ces prévisions qui peuvent nous paraître aujourd'hui complètement contre-intuitive.
En effet, alors il y a un premier élément, c'est ce qui s'est passé à la fin du premier confinement. Souvenez-vous, dès les premières semaines de mai, on avait assisté à un véritable rebond de la consommation à tel point qu'au deuxième trimestre, l'activité n'avait chuté que de 3% en France, alors que l'INSEE ou la Banque de France s'attendaient à beaucoup plus. Alors il risque bien de se produire la même chose à l'été prochain. Les experts s'attendent à une vraie libération de l'envie de consommer, mais ça ne suffirait pas à assurer la prospérité sur plusieurs années, ce qui les rend optimistes. C'est qu'à ce rebond s'ajouterait le fruit d'une transformation accélérée de l'économie grâce à cette crise. La révolution numérique, par exemple, qui a connu un vrai coup d'accélérateur, on le voit avec le télétravail ou encore avec les plateformes d'achat constituées par les petits commerçants. La révolution biologique aussi, jamais on n'avait produit autant de vaccins et aussi vite grâce à l'ARN. Et puis bien sûr, la transition énergétique enfin lancée avec des dizaines de milliards d'investissements sur la table, les projets fleurissent et c'est tout cela qui pourrait nourrir la croissance future.
C'est bien, mais est-ce que tout cela n'est pas un peu trop optimiste?
Alors vous avez tout à fait raison, il faut rester très prudent. On ne sait pas du tout comment les entreprises vont sortir de cette crise. On ne sait pas si elles pourront rembourser les 130 milliards d'euros de prêts qu'on leur a accordés. On ne sait pas s'il y aura des plans sociaux massifs. Mais on ne savait pas non plus avant le Covid que par exemple les usagers des visioconférences en Zoom seraient multipliés par 20 en France. Tout est allé très vite dans cette crise et la fin n'est pas encore écrite.
Ouais, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a quelque chose que l'on sait, c'est que les Français ont aussi beaucoup épargné. Et on va en reparler tout à l'heure dans le journal de 7h30 parce que notamment, vous allez voir que les jeunes, y compris, ont épargné cette année. Et c'est aussi un aspect important. Merci Daniel Fortin, l'édito Écho.
C'était l'éclairage Écho avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
7h20 sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour Sébastien.
Votre regard international, on s'arrête sur la situation en Birmanie ce matin. Où la junte continue de réprimer les manifestations qu'on entend et qui prennent de l'ampleur depuis le coup d'État du 1er février. Réponse des militaires, Internet a été totalement coupé pour la deuxième nuit consécutive. Vincent, pour vous, le rideau de bambou tombe sur le Myanmar.
Oui, il faut se garder du romantisme révolutionnaire, repeindre les révolutions en couleurs, croire au printemps arabe, voir 1848 dès qu'une foule est en colère. C'est penser comme on rêve. Le réveil est cruel, surtout pour ceux qu'on encourage, ils se sentent trahis et il y a de quoi. Mais dans le drame qui se joue en ce moment au Myanmar, il se passe exactement le contraire. Les manifestations continuent alors que les experts en doutaient et que le monde les redoute.
Alors l'armée déploie des troupes en ville, fait circuler des blindés, mais des milliers de Birmans persistent à protester.
Oui, les Birmans ont peur, mais ils ne se résignent pas. Ils savent bien que l'armée a noyé dans le sang l'été de Rangoon en 88 et puis la révolte du Safran en 2007. Mais ça n'empêche, il y a concert de casseroles le soir, appel à la désobéissance civile sur Internet et manif tous les jours. Hier à Rangoon, devant la Banque centrale pour qu'elle se mette en grève, les ambassades américaines et chinoises, manif aussi à Mandalay et même à Naypyidaw, la capitale où tous les habitants sont fonctionnaires. Ce sont leurs enfants qui descendent dans la rue.
Et depuis l'étranger, Vincent, les pays asiatiques, eux, s'interdisent toute ingérence. Les Européens sont prudents ?
L'Europe, elle n'est pas pressée de prendre des sanctions. Elle pousserait les militaires birmans dans le bras des Chinois. Joe Biden en a pris des sanctions exigeant la libération immédiate d'Aung San Suu Kyi. C'est son premier défi international. Et il parle dans le vide. Russes et Chinois ne feront rien pour l'aider, bien au contraire. L'émissaire de l'ONU a mis en garde hier les militaires contre toute forme de réaction brutale qui risquerait d'avoir de lourdes conséquences. On se demande bien lesquelles. Les généraux birmans sont, depuis l'exode des Rohingyas, interdits de séjour à peu près partout. On ne risque pas de leur confisquer une villa sur la Côte d'Azur ou un compte en Suisse. Le Monde fait semblant de croire le chef d'état-major qui prétend avoir pris le pouvoir pour préparer les élections libres et équitables. On le prend au mot. En fait, on fait avec les militaires birmans ce qu'on reprochait sévèrement de faire à Aung San Suu Kyi, tenir compte du réel et gagner du temps en espérant ainsi conjurer la fatalité.
Le regard international, signé Vincent Hervouette chaque matin sur Europe 1. Merci Vincent, à demain. 7h23, le foot professionnel n'est pas tout à fait sorti d'affaires. C'est en tout cas le message de la Ligue. Après le rachat par Canal des droits télé, la Ligue estime que l'enveloppe ne suffira pas à combler le manque à gagner des clubs. Elle réclame à l'État un plan d'urgence. Cette demande est-elle indécente ou justifiée ? L'édito sport à suivre avec Virginie Fulpin avant de retrouver Stéphane Bern. À tout de suite, 7h23.
Europe Matin,
le 7-9, Sébastien Krebs.
7h25, c'est l'heure de l'édito sport avec Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Les représentants des clubs de foot professionnels ont donc rendez-vous avec les ministres des Sports et des Finances. Ce matin, la Ligue réclame un plan de soutien d'urgence de l'État. Pour vous, les clubs pro flirtent avec l'indécence.
Bah on dirait que la Ligue et les clubs veulent faire payer à l'ensemble des contribuables français le prix de leurs inconséquences. Donc oui, je trouve ça assez gênant qu'il y ait une réunion avec le gouvernement pour parler des difficultés financières des clubs et chercher des solutions. Tant mieux, évidemment, c'est ensemble qu'on peut trouver une sortie de crise. Mais là, on dirait une injonction à agir. En gros, on a besoin d'aide, on en a besoin maintenant. Et si vous refusez de nous aider de manière conséquente, vous aurez la mort du football français sur la conscience. Est-ce qu'on pourrait juste avoir un petit peu de décence ? La Ligue n'a eu besoin de personne pour se retrouver dans la panade. Elle y arrive très bien toute seule. D'accord, il y a la crise sanitaire qui pèse lourdement sur les finances des clubs. Entre la saison arrêtée l'an dernier et les huis clos dans les stades depuis, il faut trouver des parades. Mais personne n'a mis le couteau sous la gorge des membres de la LFP pour les forcer à céder aux sirènes de Media Pro. L'État n'y est pour rien, les contribuables français non plus. Et le trou dans les finances des clubs vient aussi de là, de la gestion calamiteuse des droits télé. C'est un peu facile aujourd'hui d'accuser la crise sanitaire de tous les maux et de demander des compensations à tout va.
Mais surtout que l'État a déjà beaucoup aidé le football professionnel.
Bah oui, on ne peut pas vraiment dire que les clubs pro ont été abandonnés à leur triste sort. Ils ont bénéficié du chômage partiel, des prêts garantis par l'État, il y a une compensation des pertes de billetterie qui arrive et il y a aussi des exonérations de charges sociales. Je ne dis pas que ça suffit ni que c'est simple à gérer pour les clubs, certainement pas. Mais on peut quand même reconnaître que l'État a déjà fait de nombreux efforts. Donc, tancer le gouvernement en réclamant de manière peu amène un plan d'urgence, c'est assez malvenu. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, à nous, veut parler aussi, lors de la réunion de ce matin, de la gouvernance du foot professionnel et de la réduction des coûts dans les clubs. Ça me semble nécessaire. Il faut des réformes, il faut réfléchir à l'avenir, il faut apprendre de ses erreurs, pas juste faire la manche auprès de l'État et continuer comme avant, comme si c'était rien passé, comme si on ne voulait tirer aucune leçon. Et puis n'oublions pas non plus que c'est le foot français tout entier qui est en danger, pas juste le football professionnel. Les clubs amateurs ont bien du mal, ne serait-ce qu'à jouer au football aujourd'hui. Ils ont perdu de nombreux licenciés aussi. Alors que les pros fassent cavalier seul et ne voient pas plus loin que le bout de leurs intérêts, bah oui, c'est un peu gênant.
Il faut toujours rappeler et parler de ce football et de ce sport amateur au sens large qui est si important. Merci Virginie Fulpin, l'édito sport. Vous restez avec nous Virginie, parce que Stéphane Bern arrive. C'est notre moment d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Pardon pour l'expression du jour, il est encore un peu tôt. Le petit déjeuner n'est peut-être pas encore terminé. Bref, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'expression « rouler une pelle », voire même « rouler un patin ».
Oui, bon, dans les deux cas, on est sur un French kiss, comme on dit. On s'embrasse de façon fougueuse.
Oui, le patin, ici, vient du verbe « patiner », qui signifiait en argot « caresser ». Et pour dire « caresser », on disait aussi « peloter ». Alors, ça va intéresser Virginie. Les joueurs de tennis, anciennement joueurs du jeu de paume, avaient une expression pour dire qu'ils s'échauffaient. Ils pelotaient en attendant la partie. On voit bien le parallèle entre
même
les...
Même ça, ça vient du tennis.
On voit bien le parallèle entre les amateurs de la balle jaune et les amants fougueux qui, avant les choses sérieuses, n'étaient pas contre un petit tour de chauffe. Peloter a donné pélo. On disait rouler un pélo, puis rouler un palo, sachant que le pélo vient de plot. C'est du patois normand. Ça désignait un gros pieu enfoncé en terre pour y attacher les vaches quand on n'avait pas de clôture. Un gros pieu enfoncé en terre, je ne souligne pas plus la métaphore quant aux vaches. C'est vrai qu'elles ont souvent la langue qui sort de la bouche quand elles ruminent. Tout fait sens, vous voyez.
Je vais voir l'échauffement différemment maintenant.
Historiquement, votre, on vous retrouve à partir de 16h avec Mathieu Noël.
Oui, on réunit la favorite, maîtresse officielle du roi Charles VII, Agnès Sorel, le dissident bulgare Georg Markov et le chanteur Robbie Williams. Leur point commun ? Ils ont été empoisonnés, voire même empoisonnés pour le dernier. Oui, Robbie a mangé trop de poissons, vous verrez.
Historiquement, votre à 16h. À tout à l'heure. Merci Stéphane Bern. Et Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Les nuages aussi se pelotent, figurez-vous. Mais ça, c'est une expression tout à fait météorologique. Hein. C'est pas péjoratif. Voilà. Donc, ils se pelotent parce que quand ils se rassemblent. Et là, c'est le cas, par exemple, aux portes de la Bretagne, puisque une petite pluie arrive sur la pointe bretonne. Et elle va gagner, ces petites pluies, en s'intensifiant. La Loire Atlantique, la Normandie, la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais. Quelques gouttes sur le Poitou-Charentes, sur le centre, la région parisienne, la Champagne et les Ardennes, pas mal de nuages, quelques rayons de soleil et peut-être 3 gouttes en fin de journée sur Paris, mais je n'y crois guère. Dans le sud-ouest, le massif central, la Bourgogne, la Lorraine et l'Alsace, des éclaircies et un temps sec. Et puis en Méditerranée, pour d'autres raisons, pour les raisons méditerranéennes, c'est la pluie marine qui arrive, il y a de la pluie donc qui vient de la mer, et le beau temps quand même va se propager aussi sur toutes les Cévennes, donc derrière l'arrière-pays méditerranéen, enfin, sur les Mâconnais, puis ensuite sur l'Alsace, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes. Vous voyez que globalement, il va faire assez beau aujourd'hui et on ne va pas s'en plaindre avec des températures de 13 à 17 degrés.
Ok, non, on ne va pas s'en plaindre. À tout à l'heure, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Tout de suite, un nouveau journal. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 7h30.
Avec le coronavirus, les dépenses ont baissé. Tout ce qui était voyage en vacances et aussi les sorties du quotidien, le cinéma, les bars. Donc c'est beaucoup plus simple de mettre de l'argent de côté.
Ah oui, l'épidémie a complètement changé nos comportements. Forcément, rester à la maison, cela fait faire des économies. 300 euros par mois économisés en moyenne l'année dernière par les plus jeunes notamment. C'est une information Europe 1. Dans ce journal, les variants du Covid pourraient être moins contagieux que prévu. La colère des syndicats de policiers après la proposition de la défenseure des droits qui voudrait tester des zones sans contrôle d'identité. Et puis le plus célèbre des plombiers et sa salopette rouge reviennent pour les vacances. Nintendo vient de sortir un nouveau Mario. Et forcément, notre spécialiste Clément Le Saffre l'a testé pour vous.
Après le journal, notre petit moment de détente, de défouloir aussi, c'est la touche âme avec Bertrand Chamerois. Barça PSG ce soir en Ligue des Champions, un traumatisme à effacer, mais il faudra compter sans Neymar ce soir. Alors le regard d'un ancien Parisien dans le tête-à-tête, c'est Christophe Jallet qui est mon invité dans Europe Matin. Et puis l'édito politique signé Nicolas Bétou. Bienvenue, bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Jamais les Français n'auront autant épargné qu'en cette année de pandémie. L'an dernier, le montant total d'argent déposé sur les livrets A a été multiplié par 2. Et ce matin, Europe 1 vous révèle que ces épargnants sont de plus en plus jeunes.
Bonjour Élise Dangean.
Bonjour.
Selon vos informations, nos jeunes épargnent même plus que la moyenne nationale.
Absolument. En moyenne, 5 euros par mois. C'est ce que révèle un sondage meilleurplacement.com avec OpinionWay. Alors ça peut vous sembler minime, mais pensez bien qu'on parle là de la tranche 18-24 ans, dont une partie est encore en études ou avec de bas salaires. Ils épargnent en moyenne 281 euros et certains arrivent même à des montants élevés comme Roch Luther, étudiant en droit de 23 ans. Chaque mois, il parvient à mettre de côté 600 euros des 1500 de son salaire d'alternant.
Avec le coronavirus, les dépenses ont baissé. Tout ce qui était voyage, vacances et aussi les sorties du quotidien, le cinéma, les bars. Donc c'est beaucoup plus simple de mettre de l'argent de côté. Et puis je me suis rendu compte aussi que c'est bien d'épargner maintenant parce que personne n'est à l'abri de rien.
Oui, on l'entend, Élise, au-delà de cette incapacité à dépenser, il y a aussi chez les jeunes une prise de conscience.
Absolument. Comme Rock Luther, hein, ils sont 60% à avoir pris conscience de l'intérêt d'épargner. Ça grimpe même à 67% chez les 25-34 ans. Là encore, c'est plus que la moyenne nationale. Et pour Yannick Hamon, porte-parole de meilleurplacement.com, la raison est assez simple.
On épargne parce que généralement, on a des appréhensions par rapport à l'avenir. C'est un, la retraite. Les jeunes, consciemment ou inconsciemment, vivent avec ce sentiment de se dire « il va falloir que j'épargne pour ma retraite ». Et puis après, l'effet Covid renforce une autre sensation de crainte par rapport à l'avenir. C'est la place du travail dans la société.
Voilà, des jeunes qui sont donc prêts à aller plus loin. Un quart d'entre eux souhaitent à l'avenir économiser davantage.
Les informations d'Élise Dangean du service économie d'Europe 1.
L'autre titre ce matin, c'est l'épidémie de Covid qui semble bien reculer en France.
18 000 cas en moyenne par jour, des hospitalisations en baisse et même le taux de reproduction du virus est repassé sous la barre du 1. Et alors certes, les variants du virus continuent de progresser, mais finalement, Victor Delande, on apprend que ces variants seraient moins contagieux qu'on ne le pensait. Et particulièrement le variant britannique.
Oui, fin décembre, au moment de l'apparition de ce variant, les Anglais avaient annoncé qu'il était de 40 à 70% plus contagieux que le virus qui circule depuis un an. Sauf qu'il y a un gap entre ces deux estimations. Si les contaminations baissent en ce moment, c'est peut-être parce que le taux de reproduction de ce variant, c'est-à-dire le nombre de personnes que contamine un seul malade, est plus bas que ce que l'on croyait, comme l'explique Mircea Sofonea, épidémiologiste à l'Université de Montpellier.
Avec une surcontagiosité de 40%, donc fourchette basse, eh bien ça veut dire qu'on n'a pas une explosion au 1er mars. On franchirait le nombre de reproductions 1,1 autour de la mi-mars. À partir de 1,1, la dynamique devient inquiétante pour les hôpitaux. En dessous de 1,1, c'est très lent, tellement lent que l'été arrivera avant une tension hospitalière et donc on sera sauvé.
Pour le moment, ce taux de reproduction en France est en baisse. Il est aux alentours de 0,9, donc on a un peu de marge. Mais il faut rester très prudent, poursuit un autre épidémiologiste. On a déjà vu des légers replis avant des nets rebonds, d'autant qu'il y a toujours de grosses incertitudes autour des variants sud-africains et brésiliens et de leur contagiosité.
Les explications de Victor Delande. La situation reste malgré tout inquiétante en Moselle. L'Allemagne menace de fermer sa frontière avec le département. Justement, c'est l'une des conséquences de la fermeture des frontières et de l'effondrement du trafic aérien. L'aéroport d'Orly ferme son terminal 4 jusqu'à nouvel ordre. Seuls les terminaux 2 et 3 restent ouverts en partie.
Il est 7h35 sur Europe 1. On en vient à cette proposition qui déclenche un flot de réactions. Proposer, mettre en place des zones sans contrôle d'identité dans certains quartiers. Cette proposition, elle vient de la défenseure des droits. Claire Hédon, qui sera l'invitée tout à l'heure de Sonia Mabrouk à 8h15.
Une proposition qui ne passe pas du tout chez les syndicats de policiers. Écoutez la réaction de Patrice Ribeiro, secrétaire général de Synergie Officier.
Cette proposition, elle est sidérante, elle est hors sol, elle n'est pas envisageable. Le contrôle d'identité, il a un usage, il a une finalité. C'est d'occuper le terrain pour les policiers et puis c'est un contrôle aussi du terrain parce que vous avez des gens qui sont chargés en stupéfiants, qui sont armés. Et par ailleurs, c'est le seul moyen aujourd'hui qui nous permet de procéder à des contrôles, à des palpations sur des personnes qui occupent des hauts d'immeubles, par exemple, qui terrorisent des quartiers complets, qui se déplacent en bande pour des expéditions punitives, comme on l'a vu dans l'affaire Yuril. Donc, nous enlever ces outils-là, c'est créer plutôt des zones de non-droit. C'est-à-dire que les zones de non-contrôle d'identité deviendraient très vite des zones de non-droit.
Patrice Ribeiro du syndicat Synergie Officier, joint par Guillaume Bier. 5 ans de prison ferme pour Kylian, le chauffeur de Lorient. En 2019, il avait percuté 2 enfants, tuant le premier et blessant grièvement le second. Sa passagère et ex-petite amie écope, elle, d'un an de prison assortie d'un sursis probatoire de 2 ans. C'est le résultat d'une opération de la DGSI qui a pu s'infiltrer dans les réseaux de l'État islamique. 3 djihadistes présumés ont été condamnés hier à des peines allant de 20 à 30 ans de réclusion criminelle. Ils sont soupçonnés d'avoir projeté un attentat à Paris en décembre 2016.
C'est l'un des jeux vidéo les plus connus, les plus populaires. Nouvel épisode dans la saga du plus célèbre des pompiers. Mario revient dans la dernière version de Nintendo.
Bowser's Fury, c'est son nom, excusez-moi pour la prononciation. Un jeu 2 en 1 qui reprend une édition sortie en 2013 qui, elle, n'avait pas connu un très grand succès. Et cette fois-ci, c'est une version améliorée pour Switch, la dernière console de la firme japonaise. Et manifestement, Clément Le Saffre, c'est plutôt réussi.
Oui, Nintendo a eu une excellente idée en donnant une seconde chance à Super Mario 3D World, une merveille pour petits et grands. Dans cette aventure, Bowser, l'ennemi juré de Mario, a encore fait les siennes en capturant des fées. Alors, ni une ni deux, le petit plombier se précipite à leur rescousse. Super Mario 3D World reprend le principe inusable de la saga avec une multitude de petits niveaux à traverser, mais tout est en 3D, chaque niveau est une sorte de parc d'attractions haut en couleur, un monde de lave, du surf à dos de dinosaures ou encore des promenades dans les nuages, le tout en costume de chat, nouveau déguisement dont est affublé Mario et qui lui permet de grimper au mur. Et cerise sur ce beau gâteau, Nintendo a ajouté un mode de jeu supplémentaire pour accompagner ce remake, un niveau unique mais immense dans lequel il faut nettoyer un lac pollué par Bowser, encore et toujours lui. Plus qu'un simple bonus, c'est bel et bien un jeu dans le jeu, de quoi ajouter quelques heures de fun en plus que l'on joue seul ou jusqu'à 4 entre amis ou en famille.
Eh ben voilà, ça donne envie d'y jouer ça.
Il est
Clément
bien plombier,
Le Saffre.
Bien sûr.
Et pas pompier.
Plombier et pas pompier, c'était un lapsus, bien sûr. Je sais qu'il est plombier, évidemment. Sophie Echen pour le journal de 7h30.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 7h38, vous allez suivre ce match ce soir sur Europe 1, soirée spéciale dès 20h, Barça-PSG, 8e de finale de la Ligue des Champions. Je reçois ce matin un ancien joueur parisien, l'arrière-droit Christophe Jallet, dans le tête-à-tête Europe Matin. Ce sera juste après La Touche Âme. Bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Vous saviez que Tony Parker et Joe Wilfried Tsonga soutenaient la candidature de Frédéric Thierry à la FFF?
Non.
Bah eux non plus, on en parle dans un instant.
A tout de suite sur Europe 1, 7h38.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
7h41, c'est l'heure de La Touche Âme avec Bertrand Chameroy. Bertrand, ce matin, l'actualité qui vous a interpellé, c'est cette liste, la liste des soutiens de Frédéric Thirier pour la présidence de la Fédération Française de Foot. Elle fait beaucoup parler, cette liste.
Oh, comme vous y allez, Sébastien, ça va, pas de quoi en faire un pataquès. Ça vous est jamais arrivé de bidouiller, vous? Non, jamais vous n'avez annoncé non. La venue d'un gros invité qui n'était pas au courant? Pop, 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 même pas un petit teasing sur un comédien, alors que vous receviez en fait le patron de l'Office National des Forêts? Non? Bah, j'irai vérifier. Bah, vous croyez que j'ai été élu délégué de la 5e B comment à l'époque? Bah, j'avais rajouté le nom du mec le plus populaire du collège dans la liste de soutien, sans son accord, c'est un classique. Il y a eu un couac, c'est Frédéric Thirier lui-même qui l'a reconnu sur cette antenne. Oui, quand il a découvert qu'il faisait partie de la liste des soutiens, Tony Parker a démenti supporter la candidature. Ça reste un couac. Bon, depuis, Joe Wilfried Tsonga, Ladji Doucouré et Soprano ont également démenti, mais ça reste peu, ça va. Puis il en faut plus pour affaiblir le comité de soutien, il reste déterminé. Michel, qu'est-ce que tu fous? Bah, je détruis la liste au broyeur, là, comme on a dit. Non, parce que déjà qu'on passe pour des guignols avec Tsonga, Parker et les autres, qu'est-ce que ça va être quand Mike Tyson et Michael Jordan vont découvrir qu'ils sont aussi sur la liste de soutien? Bah alors je bazarde tout, ni vu ni connu. Franchement, je suis dégoûté. Tsonga et Parker, ça aurait pu passer. Il y en a un qui a fait une pub Kinder Bueno et l'autre qui a sorti un single, je te rappelle. Balance-toi. Donc, ils auraient très bien pu soutenir Fredo, c'était crédible, hein. Bon, il nous reste qui en soutien? Et me parle pas de Lady Gaga, hein. Je veux dire en soutien qui est au courant qu'il soutient. Pascal Frioul de la SPTT Mulhouse maintient, et on attend des nouvelles de Sébastien Rock, c'est celui qui jouait Cri-Cri d'amour dans Hélène et les garçons. Et on a Gros Couic, la marionnette. Eh ben super! Non mais arrête avec ce broyeur! Détruis pas tout, on a changé de stratégie, t'as pas lu le communiqué de Fredo hier soir, il dément les démentis. C'est plus en couac finalement, ce sont les soutiens qui ont subi des pressions de Le Grette. Oh bah c'est super, bah ça veut dire que je peux balancer de nouveaux noms alors? T'es bien assis? Écoute-moi qui nous a enregistré un message. Oula. Bonjour, je suis Barack Obama et je soutiens Frédéric Thierry. Yes, we can. C'est pas trop la classe ça? Bon ok, c'est pas vraiment le vrai, Thierry est pas super bon en imitation, mais bon, Obama, au moins lui, il est Obama, il aura pas chié une pendule dans l'équipe en découvrant son nom. Hein. Tu veux que je te prépare une version Biden? Non, ça ira. Alors, les soutiens qui avaient démenti, vont-ils démentir avoir subi des pressions? Réponse dans le prochain épisode.
Bertrand Chameroy, La Touche Âme, dans lequel on apprend donc que Barack Obama a l'accent du Sud.
Tout à fait.
Tout à fait. À demain, Bertrand. 7h43.
Europe Matin, le 7-9.
Il y a eu 2017, le traumatisme de la fameuse remontada. Le PSG retourne ce soir dans l'antre du Camp Nou à Barcelone pour un nouveau 8e de finale de la Ligue des Champions. Sans Neymar, blessé. C'est une grande soirée foot qui se prépare sur Europe 1 et on voulait dès ce matin vous proposer le regard d'un pro, d'un très bon connaisseur du PSG. Il en a porté le maillot comme arrière-droit entre 2009 et 2014. Christophe Jallet est mon invité.
Le tête-à-tête. Sébastien Krebs.
Bonjour Christophe Jallet.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes ce matin. Le Barça, c'est toujours des mauvais souvenirs pour les supporters parisiens, supporters que vous restez bien sûr. Le traumatisme de 2017, l'élimination après une remontada quasi inimaginable, il est toujours là ce traumatisme selon vous ?
Bah, j'espère qu'il est plus là et qu'il est parti, parce que ça fait déjà un petit moment. C'est vrai que je pense que quoi qu'il arrive, avec les médias, avec l'entourage, les joueurs en entendent parler. Mais j'espère en tout cas qu'ils ont réussi à évacuer cette frustration. De l'eau a coulé sous les ponts depuis. Ils ont notamment été en finale la saison passée. Et je pense que c'est l'occasion aussi de prendre une bonne revanche, même si ça reste toujours une double confrontation. Très très chaude parce que c'est deux équipes de grands talents, mais là oui, il y aura peut-être ce supplément d'âme de pas vouloir refaire les mêmes erreurs, même si évidemment on a affaire à deux clubs et deux effectifs bien distincts.
Ouais, c'était la dernière fois, hein. C'est la dernière fois que le Barça et le PSG se sont affrontés, et à l'époque Neymar était sur le terrain d'en face, il était au FC Barcelone. Il sera absent Neymar ce soir, blessé, Di Maria absent aussi. Le PSG peut tenir sans ces deux-là?
Oui, je pense que le PSG a les armes pour. Ils ont un effectif qui est de qualité, mais c'est sûr que ça sera moins limpide, peut-être, sans deux de ses meilleurs joueurs. Évidemment, chacun de chaque côté a envie de compter sur ses meilleurs éléments. Malheureusement, là, pour le coup, les Parisiens vont devoir se passer de Neymar, qui est un des meilleurs joueurs du monde, et Di Maria avec sa qualité de passe, sa qualité de frappe, qui répond très souvent présent aussi dans les grands rendez-vous. C'est sûr que c'est deux absents de marque qui vont manquer au PSG. Mais après, c'est collectivement de toute façon qu'il va falloir être plus fort que le FC Barcelone pour pouvoir sortir vainqueur de ces deux matchs. Donc va falloir vraiment trouver une âme, un PSG comme on a vu notamment face à Manchester en phase de poule, quand ils avaient l'obligation d'aller gagner là-bas pour espérer entrevoir une qualification. Va falloir retrouver ce PSG-là pour venir à bout des Barcelonais qui, eux, reviennent en forme.
Alors, il y a beaucoup d'interrogations sur cette absence de Neymar qui ressemble presque à une malédiction. Ça fait trois fois que Neymar rate un huitième de finale de Ligue des Champions avec le PSG, à chaque fois à cause d'une blessure. C'est juste la faute à pas de chance ou est-ce qu'il y a un problème ?
Après, j'ai envie de vous dire quelquefois, c'est vraiment, on essaie de mettre tous les atouts de son côté et malheureusement, les blessures nous tombent dessus. Ça peut arriver, il y a des mauvaises périodes pour tous les joueurs de haut niveau. Après, le problème avec Neymar, c'est que il a une vie à côté qui parfois peut interroger. Et puis le problème, c'est surtout qu'il la montre. Donc à partir de là, forcément, quand on fait des choses et qu'en plus on les montre, on devient forcément plus critiquable que quelqu'un d'autre. Et surtout quand vous avez des
son côté fêtard. Critiqué, ouais. Y compris à l'intérieur même du staff du PSG.
Ouais, c'est sûr. Hein. De toute façon, j'ai connu des joueurs qui avaient besoin de s'évader pour être performants sur le terrain aussi. Mais à partir du moment où on se rapproche de compétitions de très haut niveau avec des matchs très importants, c'est vrai qu'il y a peut-être des choses à ne pas faire. Après, je suis pas dans sa vie pour le juger et surtout, je ne sais pas ce qu'il a fait. Donc, évidemment, on a vu qu'il avait posté une vidéo où il avait fêté son anniversaire en petit comité, mais c'est pas parce qu'il a fêté son anniversaire qu'il s'est couché très tard, qu'il a bu de l'alcool, qu'il a pas mangé ce qu'il fallait, ça je le sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que forcément, à partir du moment où on s'expose.
Vous comprenez la frustration des supporters, avoir un joueur payé à prix d'or qui n'est pas là dans les grands rendez-vous?
Oui, c'est sûr. Je pense que c'est lui le premier déçu d'être absent. Après, quelquefois, il faut tirer aussi profit de ses erreurs, essayer de pas les recommencer pour pouvoir justement être présent lors de ces grands rendez-vous, même si là, sur le coup, en revoyant la blessure, on s'est arrivé dans un match, sur une action quelconque. C'est vrai que c'est frustrant pour les fans du PSG, pour les amoureux du foot, tout simplement, de devoir se priver de lui pour un tel match.
Alors, en première ligne, il restera Kylian Mbappé. Lui sera sur le terrain ce soir. Tout repose sur lui.
Tout ne repose pas sur lui, mais évidemment, ça sera un des fers de lance avec Keane ou Icardi devant, qui auront à charge de malmener cette défense barcelonaise. C'est sûr que là, pour le coup, tous les yeux seront braqués sur lui parce que on va lui en demander beaucoup, on va lui demander de faire des différences. Et c'est là où il va falloir qu'il arrive à rester simple dans son jeu pour pouvoir justement être performant, faire briller le PSG et lui-même par la même occasion.
Il y a aussi des interrogations suscitées par Kylian Mbappé en ce moment sur son état de forme, sur son état peut-être de motivation aussi. Quel regard vous portez là-dessus ?
Non, je pense que de toute façon, à l'approche de ces grands rendez-vous, mentalement, il va être présent. Kylian, c'est un professionnel, c'est un compétiteur et il va avoir envie de performer. Alors après, est-ce qu'il va y arriver? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, j'ai aucun doute sur ses intentions. Évidemment qu'il y a plein de sujets sensibles le concernant, voilà, savoir notamment en commençant par son avenir. Mais je pense que voilà, c'est le genre de joueur capable de sublimer dans les grands rendez-vous et je pense qu'il va vraiment vouloir faire le job et montrer de quoi il est capable.
Vous portiez le maillot du PSG, Christophe Jallet, au début de l'ère Qatari, lorsque cette grande vague de recrutement a commencé. Depuis, on se demande un peu tous les ans si ça va être l'année du PSG en Ligue des Champions. Est-ce que vous y croyez encore ?
Bien sûr que j'y crois encore parce que c'est vrai que je les ai commentés toute la phase de poule et il y a des moments où j'étais énervé parce que je les trouvais pas à leur niveau. Mais c'est pas souvent les meilleures équipes en phase de poule qui arrivent au bout. Donc ça laisse vraiment un espoir et on les a vu faire des phases de poule parfaites où ils se sont fait sortir en huitième de finale. Donc comme je l'ai dit avant pour Kylian, c'est valable aussi je pense pour le reste de l'effectif qui est composé de joueurs de très haut niveau. Il va falloir vraiment montrer que c'est des grands joueurs. Ça sera un bon révélateur pour voir en tout cas jusqu'où peut aller le PSG cette saison avec ce huitième de finale, parce qu'on annonçait des Barcelonais un peu friables, un peu moins performants, mais là ils ont montré ces dernières semaines qu'ils étaient de retour au très haut niveau, donc c'est un vrai gros test pour les Parisiens. Il va falloir se donner à 200% s'ils veulent se qualifier.
Un gros test pour les Parisiens, un gros test aussi pour le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino. Sera son baptême en Ligue des Champions sur le banc du PSG ce soir. C'est l'entraîneur qu'il faut aujourd'hui pour Paris?
Bon, en tout cas, moi j'ai confiance en lui en tant qu'observateur. Il a fait du bon boulot à Tottenham. J'avais eu des retours aussi, notamment d'Hugo Lloris, qui me disait que c'était un super coach. Alors, il a pas eu encore énormément de temps pour mettre des choses en place, notamment avec un groupe qui est toujours fragilisé par les blessures. Mais oui, je pense que déjà, c'est quelqu'un qui connaît très bien le club, qui en a été le capitaine. Donc forcément, il a des atouts pour pouvoir justement s'imposer comme un grand entraîneur au PSG. Mais ça passera surtout par ces matchs de Ligue des Champions, les grands rendez-vous qu'il faudra pas rater. Et c'est de toute façon là-dessus qu'il sera le plus jugé. Donc c'est notre paire de manches là qui l'attend avec cette Ligue des Champions. Mais je pense qu'il est prêt, il en a vu d'autres. Il a déjà amené un club en finale. Donc voilà, je pense qu'il est tout à fait capable de réitérer ça avec le PSG.
Match test pour les Parisiens face au Barça, au Camp Nou. Le Barça, vous le disiez, de retour au plus haut niveau. Bon, Christophe Jallet, je suis obligé de vous demander un pronostic du coup. quel est votre pronostic pour ce soir?
Moi, je vois bien partout parce que les Barcelonais à domicile, c'est quand même solide, notamment en Ligue des Champions. Mais il y a du répondant côté parisien, donc un partout.
Christophe Jallet, ancien joueur, ancien arrière-droit du PSG. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Soirée spéciale, bien sûr, dès 20h pour suivre ce Barça-PSG, premier huitième de finale de la Ligue des Champions. Bonne journée à vous.
Merci, bonne journée à vous et bon match ce soir.
Europe 1, Sébastien Krebs.
7h52 sur Europe 1, une nouvelle aide annoncée pour les moins de 25 ans. Une prime déménagement, 1000 euros pour les jeunes actifs. Le gouvernement multiplie les chèques, mais est-ce efficace? L'édito politique avec Nicolas Bétou à suivre. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
7h54.
L'édito politique de Nicolas Bétou avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Bonjour Nicolas Bétou.
Bonjour Sébastien.
Votre édito politique, on s'arrête sur cette nouvelle aide pour les jeunes. C'est Emmanuelle Wargon, la ministre chargée du logement, qui l'a annoncé hier. Les moins de 25 ans qui commencent dans la vie professionnelle vont pouvoir toucher une aide pour s'installer.
Voilà, un chèque de 1000 euros pour payer leur déménagement. C'est l'extension d'une aide qui existait déjà depuis 2 ans. Pour les Français qui doivent déménager pour se rapprocher de leur boulot.
Une prime déménagement qui s'ajoute donc à ce que le gouvernement avait déjà annoncé au début du mois, la création d'une autre aide pour les étudiants cette fois.
Voilà, un chèque psy pour venir en aide aux étudiants qui ont du mal à traverser la crise sanitaire et se retrouvent coincés, isolés. L'idée, c'est de financer à hauteur de 90 euros une ou des consultations chez un psy. Mais ça n'est pas tout. On voit fleurir dans cette période de Covid une foule de projets d'aide et de distribution de chèques. Le plus ambitieux, c'est le chèque alimentaire qui fait partie des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Proposition reprise au vol par des députés de la majorité, comme par Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture. Le principe, donner aux consommateurs un chèque utilisable sur des produits bio ou pour acheter des produits locaux. Bon, c'est assez complexe à mettre en place. Hein. C'est quoi un produit bio? C'est quoi exactement un produit local? Et puis ça peut être très coûteux pour les finances publiques. Mais c'est sûr, la distribution de chèques par l'État, c'est vraiment dans l'air du temps. et on ne compte plus les projets de ce genre.
Et vous avez encore d'autres exemples ?
Ben oui, qui viennent de tous les bords politiques. Le chèque carburant pour faire le plein, le chèque énergie pour le chauffage, le chèque rebond local contre les géants de la vente à distance, le chèque pour remplacer votre équipement ménager ou pour réparer votre vélo, ou encore le chèque pour consommer de la culture. Chacun y va de sa bonne idée. Il faut dire que ça a beaucoup d'avantages, cette formule du chèque. Ça oblige à consommer. Bon, en ce moment, on a plus besoin de relancer l'économie que d'augmenter l'épargne des Français. Ça permet d'orienter les comportements, par exemple sur le bio. Et puis normalement, c'est limité dans le temps et c'est concentré là où on en a besoin.
Bon, j'imagine qu'il y a aussi des inconvénients.
Et oui, bien sûr, cette multiplication des chèques, c'est vraiment l'explosion de l'État nounou qui vous dit où consommer, quoi manger, comment se chauffer, à quel endroit s'installer. C'est l'État qui organise nos vies et qui dépense, qui verse des aides, qui signe des chèques pour cela. Alors, outre qu'on ne sait pas toujours comment arrêter ce type d'aide, je pense par exemple à l'allocation de rentrée scolaire tous les ans, c'est aller exactement à l'inverse de la promesse d'émancipation et d'initiative qu'Emmanuel Macron, mais aussi la droite, avait faite il y a 4 ans. Décidément, ce Covid a vraiment tout chamboulé.
L'échec de l'État nounou, l'édito politique signé Nicolas Bétou du journal L'Opinion. Merci Nicolas, à demain.
C'était l'édito politique de Nicolas Bétou avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
À suivre, Laurent Cabrol pour la météo et le journal de 8h, 7h57. Europe 1. 7h58 sur Europe 1, Laurent Cabrol, on continue de se diriger vers la douceur.
Eh oui, la douceur de l'air nous arrive, hormis jeudi où la pluie va nous concerner tous et où il fera un petit peu moins doux, partout ailleurs et durant pratiquement les 5 jours qui viennent, ce sera doux. Le beau temps va enfin avoir un petit parfum de printemps, samedi, dimanche, lundi, mardi, de quoi soutenir et accélérer les efforts des personnes qui sont inondées. Vous l'imaginez, chers amis, on a une pensée pour vous en ce moment, parce que c'est pas encore totalement fini tout cela. Les températures actuelles se situent entre 4 et 12 degrés, c'est dire si elles ont bien grimpé, hein. Il fait 7 à Paris en ce moment, 9 à Toulouse, 12 à Brest. Et puis dans la journée, eh bien, nous allons avoir des valeurs de 12 à 18 degrés. Ça commence vraiment à s'élever. Nancy, Lyon, 12, 15 Nice, 16 Toulouse, 17 Bordeaux, 18 Clermont, c'est vraiment Paris, Lyon, autour de 14-15, vous voyez que c'est bien. Allez, la pluie sera là sur le bassin méditerranéen pour des raisons marines, parce que les vents viennent de la mer. Montpellier, Nîmes, Aubenas sont déjà des villes sous la pluie ou sous des petites pluies. Aubenas est dans l'Ardèche, vous voyez que ça remonte bien sur la vallée du Rhône. Et puis à l'arrière, sur les conforts, les contreforts de la Bretagne, eh bien, la pluie est là entre Quimper et Brest et elle va dérouler son petit bonhomme de chemin sur la Loire-Atlantique, la Normandie, la Picardie, le Nord, le Pas-de-Calais. Sur Paris, il y aura peut-être quelques gouttes ce soir dans un ciel qui sera souvent nuageux. Mais sur le sud-ouest, la Bourgogne, comme sur le Mâconnais, l'Alsace, la Franche-Comté et Rhône-Alpes, nous aurons un bon soleil. Voilà.
Merci Laurent Cabrol. À tout à l'heure.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
Bienvenue sur Europe 1. Bon réveil tout de suite, votre journal. Bonjour François Geffrier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.